Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et Jean-Pierre Foultier, évidemment, comme chaque semaine, avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et on repart sur notre romantisme. La semaine dernière, on était en compagnie de Roméo et Juliette. Et vous nous avez parlé, évidemment, de romantisme. L'occasion d'y replonger plus en détail aujourd'hui.
Alors, nous avons parlé de romantisme, oui, mais pas de romanesque, ni de romance, encore moins de fleurs bleues. Et pourtant, Dieu sait si les mots « romantique » et « romantisme » sont aujourd'hui servis à toutes les sauces, pourvu qu'elles soient un peu sucrées, voire sirupeuses, soupernes amoureux, chandelles, violons, couchers de soleil, de grâce.
Bon, on commençait juste à rêver, vous nous arrêtez dans notre élan, quoi.
Eh bien, c'est fini. N'exagérons rien tout de même. Il y a bien un peu de cette sentimentalité dans le romantisme, le vrai, celui dont je vais essayer de vous proposer une définition et de vous raconter l'histoire. Une histoire intimement, le mot lui convient bien, lié à l'Europe, où ce mouvement de pensée, et mouvement artistique aussi, est né à la fin du XVIIIe siècle.
Alors, le XVIIIe siècle, vous nous avez dit plusieurs fois ici que c'était le siècle des Lumières, de la raison, donc on nous dit pas très romantique tout ça.
C'est vrai, et c'est peut-être contre ce rationalisme que le mouvement est apparu, surtout chez nos voisins anglais et allemands. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans le pays de Shakespeare, dont nous parlions la semaine passée, que le terme avait été employé un siècle plus tôt. Le romantisme, c'est l'affirmation du sentiment face à la rigueur de la raison. L'imagination, les émotions, les passions même deviennent source d'inspiration pour les poètes, les peintres. La nature n'y est plus vue comme un modèle d'équilibre, mais ses outrances, ses orages, ses cataclysmes font écho aux violences du cœur humain. On est loin de la mièvrerie rose-bonbon dont nous parlions au début.
Exactement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en France, on n'était pas encore romantique à cette époque-là ?
Pas encore. Même si un écrivain présenté généralement comme un philosophe des Lumières, Jean-Jacques Rousseau peut être considéré comme un précurseur de cette idée romantique, dans son approche de la nature particulièrement. On a peut-être gardé quelques souvenirs datant du collège, ou plutôt du lycée, des confessions du dit Jean-Jacques. Mais l'ouvrage qui leur fait suite, Les rêveries du promeneur solitaire et son roman La Nouvelle Héloïse abordent plus spécifiquement cette idée de nature en exaltant son aspect sauvage.
Et ce serait donc au siècle suivant que le mouvement romantique se serait épanoui ?
En France, on le situe dans la première moitié du 19e siècle. L'écrivain Chateaubriand fait également partie de ses précurseurs. Lui qui exalte aussi ce sentiment de nature, un sentiment qui s'affirmera dans la poésie dite, elle, vraiment romantique. Pour le poète romantique, la nature est en effet complice de ses émois amoureux. Elle peut l'apaiser. Lamartine s'adresse au lac comme à un ami pour atténuer le chagrin que lui a causé la perte de sa bien-aimée, morte l'année précédente, de phtisie. La phtisie, c'est la tuberculose, maladie romantique par excellence, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, un petit extrait de la poésie de Lamartine. Au lac, l'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéris qu'elle devait revoir. Regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Un peu plus loin, que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout dise, ils ont aimé.
Alors on parle de peine de cœur, on a parlé de Roméo et Juliette, ça me paraît un thème romantique.
Bien sûr, et des peines de cœur qui peuvent conduire au pire. On tue par amour, on se tue par amour quand on est romantique. Mmh. Essentiellement au théâtre, il est vrai.
Oui, c'est vrai.
Roméo et Juliette sont passés par là. Et cela s'appelle le drame romantique. Nous pourrions ainsi parler du Lorenzaccio de Musset ou du Chatterton de Vigny, mais nous évoquerons seulement le Ruy Blas de Victor Hugo, cette autre histoire d'amour impossible entre la reine d'Espagne et un modeste valet. Un ver de terre amoureux d'une étoile. Un Victor Hugo qui a été le théoricien et l'initiateur de cette révolution théâtrale, qui s'est affirmé en rupture avec la tragédie classique en particulier. avec le valet Ruy Blas, mais encore plus avec la pègre de Notre-Dame de Paris et le Jean Valjean des Misérables, Victor Hugo a fait rentrer le peuple dans la littérature romantique. Un romantisme que l'on imaginait jusque-là indissociable de la noblesse. Il y a, sous la plume de l'idéaliste Victor Hugo, une exaltation du peuple que l'on retrouve également en peinture dans les toiles de Delacroix, cette fameuse liberté guidant le peuple devenue symbole à la fois révolutionnaire et romantique. Un romantisme social et politique, en quelque sorte, qui marquera durablement les futures générations européennes. Je vous avais dit que le romantisme, ce n'était pas que de la fleur bleue.
Exactement, là, on l'a bien compris. On continuera à parler de romantisme la semaine prochaine.
En voyageant en Europe, et précisément du côté de l'Allemagne, je vous raconterai d'autres histoires romantiques.
On a hâte, alors à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.